Vous écoutez L'Autre Monde, nous sommes aux Historiques, festival qui a lieu à la forteresse de Montbazon, et nous sommes avec la compagnie Saor Alba. Bonjour.
Bonjour à vous.
Ambiance écossaise pour vous?
Tout à fait, une ambiance typiquement Highlands, donc l'Écosse étant divisée en deux parties, les Lowlands qui sont le sud et les Highlands, les montagnes du nord de l'Écosse, avec un climat un petit peu plus rustique et des gens qui le sont tout autant.
Deux époques?
Tout à fait, notre association est multi-époque, nous représentons la première guerre d'indépendance de l'Écosse, période 1295-1314, je suppose que beaucoup d'entre vous ont vu le film Braveheart, eh bien nous faisons du Braveheart, mais historiquement juste. Et puis nous avons une deuxième époque, le 18e siècle, avec les révoltes jacobites, où le prétendant au trône, Bonnie Prince Charlie, un héritier de la famille des Stuart, a tenté de reconquérir les trônes d'Écosse et d'Angleterre, ce qui a mené à une guerre civile fratricide, et qui s'est très mal terminé.
Pourquoi ces deux époques seulement et pas faire, on va dire, une continuité temporelle?
Alors, tout d'abord, c'est très difficile de reconstituer une seule époque. Nous sommes vraiment des reconstituteurs historiques, on essaye d'être précis. C'est déjà difficile de faire une seule époque et nous, on s'est mis le challenge d'en faire deux. Pourquoi ces deux époques? Parce que ce sont les deux époques les plus emblématiques de l'Écosse. Le nom même de notre association, d'ailleurs, est représentatif du message que nous souhaitons faire passer. Saor Alba, c'est du gaélique écossais. D'ailleurs, la vraie prononciation, c'est Sir Alpa. Ça veut dire Écosse libre. Sir, c'est liberté. Alpa, c'est l'Écosse.
Comment est-ce qu'on en arrive à s'enrôler? Alors, je ne parle pas des gens comme moi qui ont été un peu forcés, mais comment est-ce qu'on arrive à s'enrôler justement dans une équipe de reconstitution historique?
Tout d'abord, je crois que l'essentiel, c'est d'avoir la passion de l'histoire. Ici, dans la troupe, on est tous des passionnés d'Écosse. On a tous été piqués à un moment donné de notre vie par l'amour de l'Écosse, comme beaucoup de Français d'ailleurs. Et on a souhaité transmettre ça. On peut constater qu'en France, et on le voit sur toutes les manifestations dans lesquelles nous nous rendons, tout le monde est sensible à l'Écosse. Et les Français ne savent pas pourquoi. Nous, on essaye d'expliquer pourquoi, historiquement, les Français sont attachés à l'Écosse. On parle beaucoup d'Old Alliance, la vieille alliance qui a été signée en 1295 entre les Français et les Écossais. En Écosse, vous voyez, cette Old Alliance, elle est apprise à l'école. En France, ça a été oublié. Nous, avec nos maigres moyens, on essaye de transmettre au public le pourquoi de cet amour vraiment fraternel. Et je parle vraiment d'amour fraternel, parce que quand vous parlez avec les Écossais, ils n'estiment pas que le peuple français est un peuple ami, ils estiment que le peuple français est un peuple frère, parce qu'on a versé le sang ensemble, au travers de l'histoire.
Les gens qui sont avec vous, c'est d'abord le côté historique et j'allais dire éventuellement un peu guerrier, mais ça c'est pas forcément le plus important, ou est-ce qu'il y a aussi une connotation musicale qui peut rapprocher les gens?
Non, en fait, on pourrait surtout parler d'échanges culturels majeurs. C'est-à-dire que nous, on essaye vraiment de couvrir la globalité de la culture écossaise. Donc, effectivement, ça englobe le côté guerrier, car le peuple écossais est connu pour être un peuple de fiers guerriers, mais nous sommes également des bons fêtards, des bons vivants. Donc, sur notre campement, nous présentons de la vie quotidienne, avec des tâches quotidiennes, comme le lavoir, par exemple, mais nous avons également des forgerons, du tissage de la laine, et des animations de cuisine historique. Donc, on essaye vraiment de balayer un spectre le plus large possible de culture écossaise.
Alors j'ai discuté avec d'autres équipes de reconstitution qui étaient plus anciennes dans le temps, qui nous expliquaient qu'elles avaient des grosses difficultés pour vraiment savoir ce qui s'était passé à l'époque, parce que les archives, il n'y en a pas trop. Vous, c'est une période un peu plus récente, est-ce que pour autant, vous avez quand même les mêmes difficultés?
Alors oui, la problématique des sources est toujours quelque chose d'important chez les reconstituteurs, spécialement en ce qui concerne le XIIIe et le début XIVe siècle, parce que là, en Écosse, il y a beaucoup de traditions orales. Donc effectivement, c'est un petit peu une galère. Alors d'autant plus que nous, on fait pas du français, on fait de l'écossais. Donc les sources sont d'autant plus difficiles à récupérer. Alors on a la chance, toutefois, dans notre malheur de recherche, d'avoir accès aux bibliothèques numériques écossaises. Moi, par exemple, pour mon cas personnel, je suis inscrit dans tous les musées en Écosse, et donc j'ai accès à toutes leurs sources numérisées. J'ai également la chance et l'honneur d'avoir beaucoup d'amis en Écosse, qui sont également reconstituteurs, et donc on a tissé des liens d'échanges culturels là-dessus. Donc pour le XIIIe siècle, ça nous rend vraiment service parce que c'est très difficile. Alors effectivement, pour le XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus simple parce que c'est une période qui est plus récente, où l'écriture est beaucoup plus répandue, et là, on a plus de sources. Néanmoins, il y a toujours des zones d'ombre. Et puis on se pose toujours des petits soucis sur tout et n'importe quoi. Est-ce que telle chose existait à l'époque ? Par exemple, on a une animation où on fait écrire les gens. Est-ce que le porte-plume en métal existait en 1745 ? Bah ça, c'est une problématique qui se pose dès qu'on crée quelque chose. Donc on cherche, avec de la chance, on trouve. Et si la réponse ne nous convient pas, eh bah, tant pis, on passe à autre chose. Parce que il faut vraiment, enfin pour nous, on essaye d'être le plus droit possible. Alors on est large, hein, c'est-à-dire que si quelque chose est apparu en 1747 et que nous on fait du 1745, on va quand même se permettre de l'utiliser. Par contre, quelque chose qui arrive en 1830, on le fera pas.
Tu disais en début d'entretien que Brevard, c'était pas du tout historique. Vous luttez contre quoi comme idée reçue ? Notamment des choses frappantes pour lesquelles il faudrait que les gens arrêtent de vous bassiner, façon de parler.
Alors, on lutte pas vraiment. Hein. L'idée la plus répandue, pour tous ceux qui ont vu le film Brevard, c'est que les Écossais sont en kilt au XIIIe siècle. C'est absolument faux. Les Écossais portent d'autres vêtements. Ils portent du tartan, c'est-à-dire du tissu en laine rayé, mais ils ne le portent pas en kilt. Ils le portent en brat, c'est-à-dire en cape, ou alors en sache, c'est-à-dire en écharpe. Ça, c'est l'idée commune la plus répandue. Donc là-dessus, effectivement, on essaye de communiquer vraiment, parce que ça, c'est vraiment rédhibitoire. Enfin voilà, il n'y avait pas de kilt du tout au XIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, en revanche, là, il y a des kilts. C'est d'ailleurs une des raisons qui nous a motivés aussi à faire du XVIIIe siècle, parce qu'on adore être en kilt, et là, on pouvait le faire de manière historiquement juste. Voilà. Mais on lutte vraiment contre rien. On est plus dans une démarche d'apprentissage et de découverte et de partage. On n'est pas là pour faire un clash avec les gens. On est vraiment là pour leur faire découvrir une culture, leur faire apprécier la culture, et s'ils l'apprécient déjà, leur faire découvrir pourquoi est-ce que le peuple français aime tant cette culture écossaise qui nous fascine tous.
Culture et relations entre les nations amies, tu disais. Est-ce qu'il y a des lieux en France à visiter qui pourraient être des lieux justement de cette fraternité ? Est-ce qu'il y a des vestiges ou des monuments ?
Oui, il y en a plusieurs. Alors tout d'abord, évidemment, tous les grandes batailles qui ont inclus des Écossais qui se sont battus aux côtés des Français. Alors on pense majoritairement à la guerre de Cent Ans, où là, la Old Alliance était vraiment très très forte, où des milliers, voire des dizaines de milliers d'Écossais ont donné leur vie pour le Royaume de France. Alors je pense notamment au siège d'Orléans avec Jeanne d'Arc, tout le monde connaît ça. Il faut savoir qu'à cette époque-là, le tiers des défenseurs de la ville d'Orléans étaient des Écossais, ce qui représente à peu près 4000 hommes. Quand Jeanne d'Arc est allée à Reims pour faire couronner le roi, le roi est passé en premier évidemment, Jeanne d'Arc juste derrière lui, et juste derrière Jeanne d'Arc, il y avait un capitaine écossais. C'est dire si le lien était fort, et si vous vous intéressez un tout petit peu à ça et que vous avez envie de découvrir les lieux et rendre hommage aux forces écossaises qui ont versé le sang pour nous, eh bien tout simplement je vous invite à visiter notre site internet où on a essayé de dresser une liste des plus grandes batailles de la guerre de Cent Ans. Même si nous, ce n'est pas notre période que nous reconstituons, on essaye par le biais du net de partager un maximum d'informations historiques sur le lien franco-écossais.
Et inversement, en Écosse, on a des lieux marqués d'histoire française ?
Beaucoup moins. Néanmoins, il y a un lieu qui est vraiment emblématique du sacrifice français pour les Écossais, c'est la célèbre bataille de Culloden, qui a eu lieu en 1746, le 16 avril, où deux régiments français, le Royal Écossois et les Irish Piquets, composés majoritairement d'Écossais et d'Irlandais, mais avec tout de même des officiers et des hommes de troupes français à l'intérieur, ont donné leur vie pour les forces jacobites. Donc là, sur le champ de bataille de Culloden, il y a des pierres qui ont été posées pour tous les clans qui se sont sacrifiés, et il y a une pierre notamment pour le Royal Écossois.
Là, vous êtes à Montbazon pour les historiques. Les prochains lieux de rendez-vous pour vous, ce sera où ?
Là, alors, nous avons le 19 août à Waterloo, en Belgique, pour les Scottish Days. Donc c'est un événement purement écossais, où il y aura d'ailleurs des compétitions de Highland Games, et nous y serons en campement uniquement 18e siècle. Donc pour nous c'est un petit peu un honneur de pouvoir se déplacer à l'étranger, parce qu'on est une jeune troupe, on a à peine 2 ans d'existence, mais voilà, on se projette à l'étranger avec plaisir. Il y a également en octobre où on sera à Château-Breteuil, c'est dans la région parisienne. Toutefois, sur notre site internet, notre calendrier est disponible, donc www.saor-alba.fr pour ceux qui veulent voir. On a également accès aux réseaux sociaux, on a une page que vous pourrez tous liker et partager avec plaisir, ça devient même à partir de maintenant votre quête principale.
Je te propose 5 accessoires, tu peux en prendre un parmi les 5. Tu peux choisir entre les lunettes de Clark Kent, ouais, le panier du petit chaperon rouge, les baskets de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau d'Indiana Jones. Tu prendrais quoi ?
Le chapeau d'Indiana Jones, parce que c'est trop la classe, mec.
Un mot que tu souhaiterais ajouter ?
Liberté. C'est la base fondamentale de notre association. Par rapport à l'Écosse, c'est quelque chose qui est très important. Liberté. Ouais, liberté.
Merci.
Avec plaisir.